Donc, nous commençons cette première instruction qu'on appelle conférence magistrale parce que tout le monde est là, simplement. Et dans ce RJC donc, 2006, le premier à Saint-Laurent-sur-Sèvre, étant donné les impératifs de l'horaire, je vais essayer surtout de vous présenter la démarche que nous allons parcourir avec vous pendant cette semaine. L'idée, ça a été de prendre un thème tout à fait apologétique. Vous voyez, l'idée générale, c'est donc chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est possible? Quelles sont les raisons de l'être? Quelles sont les raisons de ne pas être chrétien? Et qu'est-ce que c'est qu'être chrétien aujourd'hui? On va donc, pour essayer d'approfondir ce thème, qui est un thème qui insistera beaucoup sur les rapports de la foi et de la raison, utiliser plusieurs instruments. D'une part, les conférences magistrales qui sont données par des prêtres des différents instituts et puis par trois conférenciers laïcs. Et puis, d'autres interventions plus brèves. Les conférences magistrales ont lieu à 9h du matin et à 16h30 l'après-midi. Il y a des interventions plus brèves après la conférence du matin, qui s'appellent des ateliers. Alors là, vous vous divisez en deux groupes, sur différents thèmes importants pour la vie chrétienne et pour la marche de la session, comme l'explication de la messe, et puisque nous appelons, nous, les incontournables, donc sur ce qu'est le prêtre, le chant grégorien, quelque chose sur ce qu'est Saint-Louis-Marie, puisque nous sommes dans sa ville, ce qu'est la vocation, l'oraison, les fins dernières. Donc ça, c'est les ateliers du matin qui suivent la conférence magistrale. Après, il y a la messe, et puis l'après-midi, après un temps de détente, on reprend les conférences magistrales, et ils sont suivis des carrefours, qui sont des interventions donc d'une heure. Là aussi, vous répartissez en deux groupes. Il y aura donc un carrefour sur le nouveau rite de la messe, un sur la sainteté aujourd'hui, un sur le mariage, les persécutions antichrétiennes, avons-nous le même Dieu que les musulmans, le génocide vendéen, l'urgence de l'éducation, le combat pour la vie. Donc vous voyez, il y a différents thèmes qui sont abordés en illustration des thèmes des conférences principales. Et puis le soir, à la veillée, des témoignages qui complètent ce que nous avons essayé de vous faire passer dans les conférences magistrales. Donc la structure générale des 11 conférences magistrales, il y a une introduction que je vous fais tout de suite, mais je vais l'abréger. Heureusement, vous avez un résumé qui a été fait amoureusement. Vous pourrez lire et étudier aussi bien le verso que le recto. Sur le recto, vous avez, si ça a été bien fait, un très beau passage de saint Thomas d'Aquin dans une de ses œuvres précisément qui sert à aider les catholiques à mener la controverse avec les musulmans. Vous voyez, c'est tout à fait d'actualité. Et ce passage de saint Thomas nous montre comment c'est quelque chose de raisonnable que de donner son adhésion au témoignage des apôtres et du Christ. Donc je vais faire cette très rapide introduction, enfin aussi dense que je le pourrais, mais sans trop vous noyer quand même, sur le rapport de la foi et de la raison. Et ensuite nous verrons trois conférences fondamentales qui sont précisément les raisons d'être chrétien. Dans une première conférence par l'abbé Lucien demain matin, Dieu existe-t-il? Deuxième conférence dans l'après-midi, donc à 16h30, par l'abbé Robin, le Christ est-il Dieu? Et mercredi matin à 9h, je ferai une conférence sur l'Église est-elle crédible? Donc vous voyez, il y a un enchaînement assez fort. Est-ce que Dieu existe? On est tâche de poser les questions dans l'ordre. Si Dieu existe, est-ce que le Christ est Dieu? Deuxième conférence. Et troisième conférence, si le Christ est Dieu, est-ce que l'Église catholique qui a été fondée par lui et est crédible? Donc vous voyez, ça c'est des raisons très fondamentales pour vous donner le désir d'aller plus loin, puisqu'en 3 heures, on ne peut évidemment pas tout dire. C'est un peu l'essentiel de ce qu'on appelle l'apologétique, donc les raisons que nous avons de donner notre adhésion au témoignage de Dieu qui nous est communiqué par le Christ. Ensuite, il y aura 3 conférences plus polémiques, si vous voulez, les raisons, enfin, repousser les raisons de ne pas être chrétien. Donc il y aura une conférence sur l'islam par M. Al-Kader, donc fondateur d'une association pour soutenir les Coptes en Égypte, qui est lui-même d'origine maghrébine. L'après-midi, nous aurons, la première conférence, ça sera par M. Gazot, donc un professeur, un assistant à l'Institut de Faculté libre de philosophie comparée, qui nous interviendra sur l'agnosticisme. Deuxième conférence sur l'islam et troisième conférence sur le sécularisme et une certaine décomposition de naturalisme à l'intérieur du christianisme et spécialement de l'Église catholique par le professeur Perrin, qui est un spécialiste. Donc vous voyez, on a tâché de vous donner des intervenants laïcs compétents sur ces sujets que vous êtes amenés à affronter dans la vie quotidienne. Et puis ensuite, les 3 dernières conférences magistrales, enfin les 3 suivantes, c'est qu'est-ce qu'être chrétien, comment l'être, qu'est-ce que c'est. Donc là, on fait qu'est-ce qui c'est, qui sera expliqué dans les autres RJC, si nous pouvons les continuer, les années qui viennent. Une première conférence par l'abbé Lucien sur la foi, une deuxième sur la morale, c'est-à-dire la vie dans le Christ, par le père Augustin, donc des chanoines de la grâce, et puis le soir du samedi, M. l'abbé Guillard fera une conférence sur le mystère de l'Église. Donc on n'a pris que trois points clés, la foi, la morale, l'Église. Alors on a conscience qu'on prend des flashs hein, sur des problèmes très fondamentaux. Vous avez une librairie qui sera à votre disposition, et puis les prêtres, les séminaristes, donc on est quand même un certain nombre. Quand on n'est pas pris par les tâches liturgiques de répétition de chorale ou de sacristie, qui sont très importantes aussi, il y aura des ateliers pour ceux qui désirent s'initier, eh bien nous sommes toujours à votre disposition pour les confessions, pour les prêtres bien sûr, et puis pour toute discussion ou question que vous pourrez poser, mettez à profit les compétences qui sont à votre disposition pendant 4 jours, 5 jours. Et puis, le dernier jour, le dimanche matin, je ferai une conclusion sur la chrétienté aujourd'hui, point d'interrogation, c'est-à-dire en conséquence de tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a un impact, est-ce qu'il doit y avoir un impact social, politique, au grand sens du terme, de la foi chrétienne, du catholicisme? Alors, si vous êtes sage, vous connaîtrez la réponse dimanche matin. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, pour laisser un peu de suspense. Enfin, vous en doutez quelle est la réponse, mais c'est bien de laisser un peu de suspense, puis la question est complexe. Donc, vous voyez, c'est un programme assez riche, donc je pense qu'on va faire du bon travail. C'est intéressant. Bon, cet après-midi, ce soir, on va vous présenter les différents responsables et on fera la répartition en équipe. On a déjà donc une expérience de plusieurs années de ce travail. L'expérience que nous avons pour nous, c'est, enfin nous les prêtres, en tout cas c'est très gratifiant. C'est vraiment un apostolat très intéressant et nous vous remercions d'être venus en profiter. Donc profitez-en au maximum dans le bon esprit, la bonne humeur, la détente et la vie de la liturgie qui va baigner tout ça et qui est évidemment tout à fait essentiel. La liturgie, l'étude, la détente et tout le reste. À l'intérieur de la foi et des mœurs, bien entendu, hein, ça c'est clair. Bon. Voilà, alors maintenant, moi je dois vous parler de la foi et de la raison, qui est une gageure parce que le dîner est initialement prévu à 19h. Donc, on a obtenu une rallonge peut-être jusqu'à 19h25. Donc, on va. 19h30, donc c'est confirmé. Alors, vous avez votre feuille, le résumé avec mes pattes de mouche, mais qui doit être lisible. Comme ça, je suis sûr que si vous endormez, vous emportez quelque chose à la fin de la conférence. C'est le résumé. Donc, il y a un très beau texte qui a été écrit par, c'est plus qu'un texte, puisque c'est une encyclique, qui a été écrit par Jean-Paul II en 1998, Foi et raison, qui est tout à fait dans la ligne d'un premier texte fondateur de Léon XIII, Carni Patrice, du dernier quart du XIXe siècle, 1878, si ma mémoire est exacte, ou quelque chose comme ça. Donc, Jean-Paul II est revenu sur l'importance du rapport de la foi et de la raison. Et je vous ai mis une phrase qui ouvre pratiquement son encyclique. « Les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité sont la foi et la raison. » Donc, si vous voulez, le message essentiel du RJC, de ce RJC-ci et des autres aussi, c'est que la foi et la raison se complètent, s'appuient l'une l'autre. On va essayer de voir comment. Et évidemment, on va le voir à l'école, les intervenants que vous aurez sont tous formés, enfin l'immense majorité, à l'école de Saint-Thomas d'Aquin, le docteur Commun. Je vous ai mis une citation très louangeuse de Jean-Paul II sur saint Thomas d'Aquin, justement dans Fides et Ratio, disant que c'est lui qui a poussé le plus loin l'exigence de la raison et de la foi, et l'union de la raison avec la foi. Donc vous voyez, c'est extrêmement intéressant de voir que le pape Jean-Paul II reprend les accents des papes antécédents, surtout depuis Léon XIII, qui ont dit « si on veut approfondir ce que la raison nous dit et ses rapports avec la foi, il faut s'adresser à saint Thomas d'Aquin ». Donc, nous avons deux moyens de connaître la vérité. La raison et la foi. La raison a un critère qui est l'évidence. La foi a un autre critère qui est le témoignage. L'abbé Lucien fera une conférence que je vous invite à suivre très attentivement sur la nature de la foi. Je vais donc simplement en dire un mot ici. Le critère de la raison, c'est l'évidence. C'est-à-dire que tout ce que nous connaissons par la voie naturelle, nous le connaissons parce que finalement, ça se ramène à des connaissances certaines et elles-mêmes s'appuient sur des données évidentes qui sont soit des données immédiates qui nous sont présentés au sens ou à l'intelligence, comme ce qu'on appelle les premiers principes de la raison, les très grands principes que toute intelligence humaine se formule à elle-même dès qu'elle commence à penser, comme le fait qu'une chose est ce qu'elle est et qu'elle n'est pas son contraire, qu'elle ne peut pas être elle-même et son contradictoire, en même temps, sous le même rapport, c'est ce qu'on appelle le principe de non-contradiction, et dont les philosophes ont montré, spécialement Aristote, que vraiment, quand l'esprit humain commence à fonctionner, quand notre intelligence d'enfant, si vous voulez, commence à abstraire les réalités du monde sensible, eh bien, elle arrive à saisir la raison profonde des choses, qui est l'être, et la première chose qu'elle se dit elle-même, c'est que les choses ont une consistance et qu'il n'y a pas de contradiction à l'intérieur même de l'être. Oui, c'est absolument fondamental. Tous les philosophes qui ont cherché à nier le principe de contradiction sont tombés évidemment dans l'absurde, voire dans la folie. Et Aristote a montré qu'il était absolument impossible de l'ébranler. Donc les connaissances, vous voyez, c'est important de le rappeler parce que on vit, comme le pape l'a dit à plusieurs reprises, comme cardinal et comme pape, dans un siècle de relativisme. C'est-à-dire qu'on doute de la capacité de l'intelligence à atteindre la vérité et les certitudes de la vérité. Il faut donc rappeler, comme l'a fait longuement et de façon compétente évidemment le pape dans cette encyclique, comme les papes antécédents, que l'intelligence humaine peut atteindre les valeurs les plus profondes de la réalité, spécialement l'être, et qu'elle les atteint avec certitude. Et ça, avant même la révélation religieuse, c'est extrêmement important. Si on perd de vue cet aspect-là, on tombe dans le fidéisme, voire dans le fanatisme, enfin dans quelque chose qui n'est pas catholique, et contre lequel nous souhaiterions vous mettre en garde, parce que vous vivez plus ou moins, nous vivons plus ou moins dans les milieux chrétiens, comme Jean-Paul II l'a rappelé vers la fin de son pontificat, dans un fidéisme diffus, vous voyez, où finalement les chrétiens eux-mêmes doutent de la capacité de la raison. Donc la raison est quelque chose qui marche, qui atteint la réalité et qui amène l'homme à la connaissance en s'appuyant sur l'évidence, soit l'évidence sensible du monde qui est autour de nous, le christianisme est quelque chose qui aime le monde, qui aime la réalité sensible, soit les évidences intellectuelles que notre intelligence saisit à partir de l'observation du monde. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de fort dans lequel il faut se rappeler que le domaine de la raison naturelle comprend d'une part ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences, spécialement les sciences expérimentales, qui ont pour objet, surtout depuis la forme qu'elles ont prise depuis 3 ou 4 siècles, de mettre en rapport les mesures, de mesurer les choses dans la réalité. Et ça, ce sont des sciences qui atteignent la réalité. Je crois que là aussi, il faut le signaler, parce qu'il y a une tendance chez certains croyants à diaboliser les sciences et à imaginer que ce sont des pures hypothèses et que ce sont des choses finalement dangereuses. Alors ce qui est dangereux, c'est la fausse vulgarisation, c'est la fausse philosophie de la science, mais la science est bonne, elle est un exercice de la raison dans le domaine de la mesure, dans le domaine de ce qui est quantifiable. La physique atteint la réalité, la mathématique atteint la réalité avec un autre axe d'approche, la biologie aussi, et là-dessus l'homme peut construire des choses, et la preuve que c'est vrai, c'est qu'on obtient des résultats qui... confrontés à l'expérience, sont crédibles et valables. Oui. C'est assez étonnant de voir qu'il y a des gens qui se prétendent réalistes et qui s'imaginent que les mathématiques et la physique, c'est foireux, simplement parce qu'ils en ont peur, je ne sais pas pourquoi, alors qu'en fait, alors dans leur domaine, c'est des choses tout à fait excellentes. Je rappelle d'ailleurs au passage que la science moderne a été fondée essentiellement, à plus de 50% ou à 2/3 par des gens qui croyaient en Dieu. Et par exemple, dans le domaine de la cosmologie que je connais un peu, celui qui a le premier émis l'hypothèse qu'on appelle aujourd'hui le modèle standard, l'hypothèse qu'on dit vulgairement le Big Bang, c'est un des ennemis de l'hypothèse qu'il a appelé comme ça. C'est un joli nom, le Big Bang, c'est un prêtre qui s'appelle Jules Lemaître, qui était un professeur de mathématiques de Louvain. Donc, je sais qu'une allusion à ça, mais la foi n'est pas l'ennemi de la science, même de la science expérimentale et même de la science moderne. Mais il y a un autre domaine naturel où la raison atteint la vérité, c'est le domaine de la philosophie, qui va plus profond que les sciences du mesurable, les sciences au sens moderne du terme, qui sont cantonnées dans le mouvement pour la physique ou dans la mesure, dans le quantifiable pour la mathématique, et donc qui vont plus loin et qui vont jusqu'à saisir les valeurs les plus fondamentales qui sont dans les choses, qu'on appelle l'être. C'est extrêmement important. Le pape Paul VI, dans son credo, commence son petit credo, vous savez qu'il a fait le 30 juin 1968, une année climatérique, dirait certains. Il importe de rappeler, disait Paul VI, qu'au-delà de l'observable scientifiquement vérifié, qui est donc une part de la réalité, l'intelligence que Dieu nous a donnée atteint ce qui est, et non seulement l'expression subjective des structures et l'évaluation ou l'évolution de la conscience. Donc notre intelligence atteint l'être. C'est quelque chose de tout à fait fondamental. Jean-Paul II est revenu longuement là-dessus dans cette encyclique, et il en a été philosophiquement remercié par des philosophes qui disent c'est bien que quelqu'un croit encore à la philosophie, il se trouve que c'est le pape. C'est quand même intéressant, quoi. Celui qui, je crois que c'est Finkielkraut, je crois, qui remerciait le pape d'avoir fait une encyclique disant la raison doit fonctionner et la philosophie ne doit pas avoir peur d'avoir cette portée métaphysique, par lequel elle prétend atteindre l'être des choses. Alors je sais que je m'adresse à un public qui en général a eu une très mauvaise philosophie quand il en a eu une. Et donc notre tâche est difficile, parce que si vous avez eu affaire, comme malheureusement c'est le cas souvent, des professeurs qui vous ont fait surtout de l'histoire de la philosophie, ou quand ils vous ont fait de la philosophie, c'était de l'idéalisme, c'était du subjectivisme, c'était de je ne sais quoi, principalement ça, évidemment on est étonné quand on vous dit que la philosophie atteint la vérité, mais elle l'atteint. Si elle ne l'atteint pas, la foi elle-même est impossible, ce que dit saint Thomas d'Aquin. La foi elle-même est impossible. Si la raison humaine n'atteint pas la vérité la plus profonde de l'être, la foi elle-même est impossible. C'est impossible d'exercer l'acte de foi si, qui est un acte de raison, un acte qui est hanté sur la raison de l'homme, qui est inscrit en lui, dans la raison humaine, c'est impossible si la raison humaine n'atteint pas la connaissance véritable des choses. Absolument impossible. Donc ça, c'est très important de se rappeler ça. Donc vous voyez, la raison, son critère, c'est l'évidence, soit dans le domaine sensible ou intellectuel, évidence immédiate, soit une évidence médiate des sciences expérimentales ou de la philosophie. Mais il y a une certitude aussi, une certitude plus déliée, si vous voulez, mais quand même, il y a une certitude dans le domaine philosophique qu'il faut relire. Pour les gens qui savent lire le français, il y en a quand même un certain nombre. Il faut relire les pensées de Pascal, et en particulier l'endroit où il parle de l'esprit de géométrie et de l'esprit de finesse. Oui. L'esprit de finesse, non, qui est un esprit, et même plus fondamental peut-être que l'esprit de géométrie, atteint le réel aussi. Et donc ça, c'est, je crois, aujourd'hui, où il y a une espèce d'enflure et de domination, puisque nous sommes, par exemple, en France, dans un pays qui est dominé par les... Enfin, nos élites technocratiques sont essentiellement formées dans les grandes écoles d'ingénieurs et puis à l'ENA. Donc, il y a quand même une certaine dictature, si vous voulez, des mathématiques et des techniques. Et donc, il y a un peu une perte de vue de la force, de l'intelligence naturelle et de l'importance de l'esprit de finesse qui atteint, en effet, l'être. Vous voyez, quand Pascal oppose le cœur à la raison, d'après les interprètes les plus qualifiés, le cœur, c'est pas quelque chose de purement sensible. C'est précisément l'aspect le plus profond de notre capacité spirituelle. Et c'est ce qui nous permet de communier avec l'être et finalement d'atteindre Dieu et les grandes réalités métaphysiques. Donc il ne faut pas réduire le cœur à un aspect purement sensible. C'est quelque chose de très profond. C'est l'intelligence foncière de l'homme qui va justifier ensuite le mouvement de la raison, le raisonnement, les sciences et tout. Mais fondamentalement, si le cœur au sens de Pascal ou l'esprit de finesse ou disons l'intuition au sens spirituel du terme, n'atteint pas l'être, il est impossible de faire des raisonnements. Parce qu'ils sont fondés sur rien, ils sont fondés sur des hypothèses qui n'ont aucun enracinement. Donc il faut, je crois, réhabiliter l'intelligence naturelle, et pour la réhabiliter, il faut réhabiliter l'esprit de finesse, qui seul permet de rentrer en métaphysique, et aussi accessoirement, je crois, en poésie, et dans d'autres choses bien agréables. Et donc, vive l'esprit de finesse, et vive la pensée humaine qui a produit de grands monuments. Oui, c'est quand même consolant de penser que l'Église est celle qui se bat pour nous rappeler la grandeur de l'intelligence naturelle de l'homme. Je vais vous faire une petite confidence. J'ai soutenu une thèse de métaphysique il y a quelque temps à la Sorbonne, et j'ai eu affaire à des professeurs dont deux étaient très chrétiens, mais à mon avis assez augustiniens, voire plus, voire fidéistes. Et heureusement, il y avait un dominicain dans le jury, très intelligent, comme beaucoup. Bien entendu. Et alors, il m'a dit en descendant, comme il était un peu du sud, il m'a dit, mon père, heureusement que bientôt nous serons les derniers, c'était à la Sorbonne, hein, dans l'amphi des cartes, alors je vous dis pas, nous serons les derniers dans cette maison à défendre la raison. Parce qu'au fond, les profs chrétiens fidéistes me reprochaient de pas tout de suite être précipité dans la foi et dans la vision béatifique. Évidemment, je faisais une mémoire de métaphysique, donc je suis resté dans la raison. Et bon, on m'a quand même concédé que j'avais le droit de faire ma métaphysique. Ce qui est sympa à la Sorbonne, c'est exceptionnel. Bon, mais c'est pour vous dire, vous voyez, c'est pas une blague. C'est-à-dire que vous voyez, l'Église, c'est quand même chose, vraiment, plus j'y réfléchis, plus je trouve que c'est quand même pas mal. Parce que c'est bien pour les promesses de la vie éternelle, mais même pour les promesses de cette vie. Et alors, la raison, vous voyez, atteint la réalité profonde des choses, non seulement la mesure, mais l'être des choses, mais ça suffit pas. Pour l'existence humaine, même naturellement, on a besoin de la foi. La foi, c'est le témoignage. C'est plus l'évidence, c'est le témoignage. Dans la foi, je m'appuie sur la parole de quelqu'un qui est compétent et crédible. Et qu'il n'y a pas de raison de me tromper. Et la vie humaine est entièrement tissée de foi. Les contrats chez les notaires, le fait que je suis fils de mon père, etc. Et toute ma vie, quand je monte dans l'avion, le fait que les réparateurs ont fait les vérifications qu'il fallait, que les ingénieurs étaient compétents, c'est des fois humaines. Je m'appuie sur leur témoignage, et je sais qu'il est crédible. Il n'est pas infaillible, mais il est crédible. Et un homme qui refuse la foi humaine est un type qui termine en général à Charenton ou à Sainte-Anne. Parce que la vie humaine est impossible sans la foi. C'est pour ça d'ailleurs que la société moderne se délite, parce que la foi humaine elle-même s'effondre. Si je ne peux pas avoir confiance dans l'homme, eh bien la vie sociale est impossible. Parce qu'elle est fondée sur une certaine foi humaine, des échanges, des époux l'un vis-à-vis des autres, des parents vis-à-vis des enfants, etc. Et alors il y a un domaine où la foi est poussée à son paroxysme, c'est lorsque nous croyons à un témoin qui est infiniment sûr, infiniment savant, et qui n'a aucun désir de nous tromper puisqu'il est Dieu lui-même. Donc ça, l'abbé Lucien insistera là-dessus. Mais dans la foi, vous voyez, ce qu'il faut bien voir, c'est que si le critère est différent, c'est le témoignage et non plus l'évidence, en fait, ce que fait la foi pour nous, qu'est-ce qu'elle fait? Beaucoup de gens disent, la foi, ça fait pouic-pouic, quoi. C'est un truc sympa, ça. Je me souviens, j'avais été pris en stop entre le Valais et puis l'Italie. J'étais en soutane à l'époque. J'avais été pris en stop par des catholiques qui m'avaient engueulé parce que j'étais dans un séminaire qui n'était pas bien fermé. Et puis alors, après, je l'ai pris par des protestants, très sympas, qui m'ont dit, ben oui, la foi, c'est utile quand on est malade, la foi. Ah, je suis tombé des nues, j'avais jamais pensé à ça. C'est très utile quand on est malade. Mais je crois que surtout, c'est vrai, vous voyez. C'est utile quand on est malade, comme je disais. Mais surtout, c'est vrai. Et la foi, ça nous fait aller plus loin dans l'être. C'est pas quelque chose pour nous shooter quand on n'a pas le moral, ça peut servir à ça aussi. Mais c'est surtout, c'est que c'est vrai. Ça nous fait aller plus loin dans l'être avec l'œil de Dieu. C'est une participation à la vision de Dieu qui nous fait aller plus loin dans la saisie du réel. Et donc, c'est quelque chose qui est dans notre intelligence. L'abbé Lucien vous expliquera sous la motion de la volonté et de la grâce, bien entendu. C'est pas purement intellectuel, hein, la foi. Mais c'est cependant formellement intellectuel, et ça me fait que mon intelligence est prolongée dans sa capacité parce qu'elle acquiert l'acuité même de la vision divine. Mais c'est mon intelligence, hein. Attention. La foi, c'est pas un truc qui est purement sensible. Donc si vous ressentez rien, vous avez peut-être quand même la foi. Surtout, il y a des garçons qui disent, moi je sens rien. Donc les filles ont plus d'émotions, quoi. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, les hommes souvent disent, moi je suis un homme d'action, la foi, ça me fait rien. Ben, ça fait rien, moi non plus, ça me fait rien. Sensiblement, ça me fait quelquefois quelque chose, mais pas toujours. La foi, c'est pas une question sensible d'abord. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'âme, dans l'esprit. Donc c'est pas forcément sensible. Donc vous voyez, c'est important de voir que la foi et la raison, le pape y revient dans cette encyclique à plusieurs endroits, la foi nous fait aller. La foi qui va venir dans notre raison naturelle va lui permettre de faire des choses qu'elle n'aurait pas pu faire sans la foi, bien entendu, mais cependant ça sera toujours dans l'ordre de ce qui est intelligent et intelligible. Oui, c'est très très important. Le cardinal Ratzinger a fait une très belle conférence à la Sorbonne en 2000 où il a montré de façon magistrale, comme il sait le faire, qu'au fond le christianisme était la religion de la vérité. Il a montré en comparant à partir d'un auteur, parce que c'est un grand connaisseur des classiques grecs et latins, à partir de Varron, un classique, enfin un auteur important de la latinité, et qui compare les différentes religions. Il y a des religions physiques, des religions poétiques, des religions politiques, et le christianisme, disait Ratzinger, n'est aucune de ces religions-là. C'est vraiment une religion de la vérité. Oui. C'est pas simplement quelque chose qui a pour but de faire fonder l'ordre social, ou qui revêtu, si vous voulez, du mythe de la poésie, sert un peu à bercer les espérances hypothétiques de l'homme. Non, c'est quelque chose qui prétend partir d'une histoire vraie et nous raconter le destin vrai de l'homme et le destin vrai de tout l'univers, finalement. Donc, vous voyez, c'est important de retenir ça de l'introduction, c'est que la foi perfectionne la raison sans la détruire, mais dans la ligne de la vérité et de la saisie de l'être. Donc ça, c'est extrêmement fondamental. Alors, maintenant, quels sont les... On va rapidement esquisser les rapports de ces deux facultés. Si nous avons la grâce de la foi, si vous ne l'avez pas, il faut prier pour l'obtenir, il faut poser des questions, il faut la chercher. Et pour chercher la foi, c'est une question qui m'est posée évidemment dans mes apostolats, qui est posée à nos confrères souvent. Je crois qu'une des clés, si quelqu'un cherche, pour lui le plus important, c'est l'ordre dans lequel il faut qu'il pose ses pas. Je me souviens une fois, on m'avait fait rencontrer un scientifique de très bon niveau, intelligent, qui avait de grosses objections sur la présence réelle. Un homme qui avait mon âge à peu près. Et je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous avez réfléchi? Non, qu'il avait, je pense pas la foi, je crois. Famille catholique d'origine, ça. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez réfléchi à l'ordre des questions? Est-ce que vous êtes d'abord demandé, si vous voulez arriver à la vérité, dans quel ordre il faut poser les questions? Vous voyez un petit peu comment on va essayer de faire cette semaine. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que le Christ c'est Dieu? Est-ce que l'Église est fondée par le Christ? Si on arrive à engager dans cette voie-là, parce que chacun a son chemin, ça c'est un chemin très raisonnable, très fort, hein. Si on arrive à engager les choses comme ça, peut-être qu'après, les difficultés sur la présence réelle ont une toute autre couleur. Et peut-être qu'elles vont être résolues, ou peut-être qu'elles vont rester très difficiles, mais si Dieu existe, la présence réelle est comme un peu plus crédible. Si le Christ est Dieu, il y a plus de chances qu'il soit dans l'Eucharistie, et si l'Église est crédible, ben il y est, quoi. Parce que l'Église nous dit qu'il est là, vous voyez. Donc je pense que c'était une chose très importante de admettre, vous voyez, que si nous voulons aller vers la lumière, il y a un chemin pour y aller, il y a une pédagogie, il y a une propédeutique, comme dans toutes les sciences, comme dans tous les arts, il faut d'abord apprendre les gammes, ou je ne sais quoi, ce qu'on apprend dans les différents sports. On fait des assouplissements à des katas avant de faire des combats réels en karaté, enfin, pour prendre quelques exemples innocents comme ça. Mais il y en a d'autres, on fait des choses, des gammes, pour avant de faire des choses géniales au piano. Mais c'est pareil pour la recherche, vous voyez. Et je crois qu'il faut, nous, les apôtres, enfin les prêtres, les séminaristes et vous, qui devez être des apôtres, essayer d'accoucher les gens de l'ordre dans lequel ils vont trouver, qui va être pour eux le chemin pour la vérité. Donc avec un grand respect de leur cheminement particulier, mais en cherchant à les amener à ça. Et mon interlocuteur m'a répondu, c'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Il fallait avoir un certain ordre. Je crois que c'est par exemple ce qui a bloqué Simone Weil, la philosophe qui est morte très proche du christianisme en 1943, c'est qu'au fond, elle posait des questions avec une absoluité telle qu'elle n'admettait pas qu'on change l'ordre des questions. Il fallait d'abord résoudre des difficultés concernant l'Inquisition avant les autres qui, en fait, commandent la solution de cette question. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de très intéressant parce que celui qui cherche la vérité, je vais vous dire une chose, hein, j'ai 29 ans de sacerdoce bientôt, mais je crois que celui qui cherche la vérité, je ne crois pas, je l'ai vu, il la trouve, ne serait-ce qu'à son lit de mort. Mais le cardinal Journet disait une autre chose, celui qui cherche des prétextes, malheur à lui, parce qu'il les trouvera. On trouve toujours des prétextes. Donc je pense dans ce RJC, si vous les faites provision de pédagogie et de désir, si certains d'entre vous n'ont pas la foi, eh bien c'est un chemin pour eux pour la trouver, la demander, en tout cas avoir le cœur ouvert, parce que Dieu ne répond qu'à celui qui pose des questions. Et au fond, il y a des gens qui vous posent des questions, ce sont des pièges, ce n'est pas des chemins qu'ils ouvrent, ce sont des pièges. Qui vous mettent. Donc il faut au fond chercher ceux qui cherchent vraiment, et puis aller vers eux, il y a du monde, et le Christ nous l'a dit, vous n'aurez pas fini les cités d'Israël, pour moi ça veut dire, vous n'aurez pas fini de chercher les gens qui se posent de vraies questions. Là, récemment, un de nos frères a été avec un chanteur qui joue des obades comme ça dans la rue, des chants de Saint-Louis-Marie-Guignon-Montfort précisément, il a accompagné dans quelques villages du coin, une petite ville, bon ben les gens viennent, posent des questions, alors on a affaire à des paumés complets évidemment, mais on les aurait pas autrement quoi, donc c'est sympa quoi, faut trouver des moyens pour aller vers les gens, faut se bouger un peu, hein. Donc là, vous êtes là, on vous a sous la main, donc on ne vous lâche pas. Et voilà, alors donc maintenant, on va essayer de voir un peu les rapports de cette raison et de cette foi dont j'espère que vous avez de l'estime. Enfin, je pense qu'il faut, très souvent, pour beaucoup d'entre vous, c'est plus l'estime de la raison qu'il faut réveiller que l'estime de la foi. Vous voyez, certains cherchent, si vous voulez, se délectent, si vous voulez, de la un peu dans le domaine de la foi, en sous-estimant la raison, et il tombe dans le fidéisme. Jean-Paul II a signalé ce danger, je crois qu'il est très répandu dans les milieux catholiques, qu'ils soient charismatiques ou traditionnels, ou traditionalistes, même au carré ou au cube, c'est un danger qui est sous-jacent. Bon. Et puis d'autres, au contraire, sont plutôt rationalistes. Quoi. C'est tout ce qui dépasse un peu la capacité du raisonnement naturel leur fait peur. Oui. Et donc là, il faut leur montrer que la foi ne va pas diminuer leur raison, mais va au contraire l'anoblir, l'apaiser, la purifier. Donc c'est extrêmement beau, c'est très consolant. Oui. Je crois que quelqu'un comme... On a au XXe siècle, il y a eu grand converti, comme Jacques Maritain, son épouse, et puis d'autres, combien parmi eux, hein, Claudel, Julien Green, enfin des tonnes, et qui sont convertis très souvent par la liturgie à laquelle vous allez assister, ou vous allez assister, mais souvent aussi par saint Thomas d'Aquin. Oui, en fait, Jacques Maritain a dit cette phrase que j'aime beaucoup, il a dit qu'il avait longtemps erré dans l'idéalisme, c'est un philosophe puissant, enfin, disciple de Bergson en premier temps, et il dit « Quand je suis rentré dans la somme de théologie de saint Thomas, j'ai eu l'impression de rentrer dans une cathédrale de lumière. » Et après, il a passé sa vie, il a vu d'abord la perspective, et puis après, il a observé les chapelles, puisque la somme, c'est beaucoup de questions, beaucoup de... Et c'est très passionnant, et on n'a pas fini dans une vie, on peut parcourir la grande richesse des docteurs chrétiens, mais d'abord la vue d'ensemble, et c'est très très nourrissant. Et saint Thomas a une vue d'ensemble synthétique extrêmement consolante, vous voyez, parce qu'il montre, si vous voulez, comment les choses se tiennent. Il y a une cohérence, vous voyez, je rappelle parfois l'anecdote qui m'est arrivée au Café Cathé, à Paris on a un Café Cathé là en face de la Sorbonne, une fois par mois au Sorbonne, et il y a un type, une fois, qui me pose une question à la fin, en privé, il me dit, mais Je crois qu'il les cherchait beaucoup, je ne sais pas trop s'il avait la foi. Il dit, mais pourquoi vous avez choisi le catholicisme? Parce que bon, j'ai eu une période d'agnosticisme, donc je suis revenu au catholicisme, grâce à Dieu. Et bon, mais il dit, mais pourquoi le catholicisme? Et bien j'ai réfléchi une minute, je lui ai dit, écoutez, j'ai choisi le catholicisme, j'ai re-choisi le catholicisme de mon baptême, parce que c'est là où je trouve la plus grande densité de raison. Il a été très étonné. Et de fait, c'est vrai. C'est quelque chose de très... Et c'est consolant même d'avoir parfois des témoignages de gens qui sont agnostiques et qui disent, mais oui, le christianisme honore la philosophie et la pensée, il aime tout ce qui est humain, il aime... Bon. Donc la raison est le prélude de la foi, et la foi ennoblit la raison. Voilà, c'est là. Il y a un rapport de circularité, dit Jean-Paul II, comme l'avait dit Léon XIII avant lui. La raison prépare à la foi, contrairement à ce qu'on dit, la vraie raison, la vraie science prépare à la foi. Et la foi purifie la raison et fait que la raison va être encore meilleure. Oui. Il y a une autre anecdote que je cite parfois. Nous avions autrefois, parmi les bons médecins qui nous soignent gratuitement, parce que les moines mendiants ont beaucoup de gens très gentils qui leur font des trucs gratis pour des hauts. Donc on avait un généraliste qui était d'origine plus ou moins russe, et qui était agnostique, mais de chez agnostique, quoi. Et alors, quand j'étais chez lui, je discutais toujours de métaphysique, de philosophie, de théologie. Et il me disait, voyez-vous, il faisait des petits dessins sur les abîmes, sur tout ça. Il me disait, un biologiste qui termine sa vie sans croire en Dieu, il n'a rien compris. Il me disait ça. Alors, tu vois, il était agnostique, quoi. Sans dire que Dieu existe, qu'il y a un créateur du monde. La raison est prélude de la foi, parce qu'elle prépare le chemin de la foi. Et alors, vous le verrez demain matin avec la conférence de l'abbé Lucien. Accrochez-vous, hein. Mais c'est quand même compréhensible. Et sur l'épreuve de l'existence de Dieu, la raison prépare, voyez, le chemin de la foi, parce qu'elle établit des réalités, des certitudes naturelles, inébranlables, comme l'existence de Dieu, la possibilité pour Dieu de parler directement dans ce qu'on appelle la révélation, le fait que les évangiles sont crédibles, et le fait que l'Église est crédible. Alors, de ces points-là, on en verra certains plus en détail, l'existence de Dieu demain matin avec l'abbé Lucien, et puis la crédibilité des évangiles lorsqu'on montrera que le Christ est Dieu, et la crédibilité de l'Église dans ma conférence. Oui, on verra trois points rapidement. J'ai mis quelques références au catéchisme de l'Église catholique et à la Sainte Écriture. Vous pouvez vous y reporter. La Sainte Écriture, dans le livre de la Sagesse et dans Saint Paul, le dit explicitement. L'Église l'enseigne dans Vatican I, dans Vatican II, dans le catéchisme de l'Église catholique. La raison peut atteindre, avec certitude, l'existence d'une cause première de l'univers que les religions appellent Dieu. Et à partir de là, prouver qu'il n'est pas contradictoire à la raison, que cet être qui a fait le monde se révèle aux êtres intelligents qui sont dans le monde. Et ça, c'est une démarche rationnelle, qui est peut-être difficile, mais qui est pourtant absolument certaine, et que je crois la plupart des hommes arrivent à aborder et à même intégrer, au moins, nous dit saint Thomas, dans sa version commune, habituelle, simplifiée, si vous voulez, peut-être pas dans les détails scientifiques, métaphysiques de la preuve, qui est en effet difficile, Pascal l'avait vu, mais qui est quand même possible et juste. Et, mais les hommes, considérant le cours de la nature, nous dit saint Thomas, on voit tous qu'il est impossible que cet ordre qui se reproduit constamment n'ait pas une cause, et donc qu'ils en remontent à un créateur du monde. Mais évidemment, est-ce que ce créateur, quelles sont les caractéristiques de ce créateur? C'est ce que la raison a du mal à déterminer toute seule. Donc la foi, on va le voir, va venir l'aider. Donc vous voyez, elle établit les préambules de la foi. Et une fois qu'elle a établi ses préambules, donc c'est quelque chose de très... Aujourd'hui, vous voyez, c'est tout à fait... Les modernistes en particulier n'admettent pas que la raison démontre avec certitude l'existence de Dieu, la cause première de l'univers. Et donc ils sont en contradiction avec la foi de l'Église. Il faut le savoir parce que c'est un enseignement infaillible du Concile Vatican I et du magistère aussi ordinaire et constant de l'Église. Donc la raison fait ce travail, difficilement, mais elle le fait, et elle nous dit... L'instrument pour écouter la parole de Dieu s'il se révèle est fiable. T'as raison, tu peux t'y fier si du moins tu écartes les passions, tu travailles à vraiment comme quand on veut réussir un concours, et ben on bosse en préparatoire comme un dingue pendant 2 ou 3 ans. Et sinon on n'intègre pas, c'est clair. Hein bon. Et ben c'est pareil pour la foi, si on veut trouver le chemin qui conduit à la foi, il faut mettre le paquet, si du moins on veut faire toutes les étapes rationnellement. Et une fois qu'on a fait cela, et qu'on a, si vous voulez, reçu la foi, la raison va nous donner, si vous voulez, une vue cohérente de la foi. Et ça, je crois que le RJC a vraiment pour ambition d'essayer, même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave si vous ne comprenez pas tout, moi non plus, je ne comprends pas tout. Habituellement, je comprends à peu près tout ce que je dis. Et quand je me relis, je suis étonné parce que je comprends ce que j'ai écrit. Bon. mais pas toujours. Hein. Quelquefois, je dis à Jean-Monique, qu'est-ce que je vous dis à cet endroit-là ? Mais ça fait rien. Vous comprenez au moins la moitié de ce que je vous dis, ou les deux tiers, même peut-être la plus malin d'entre vous comprenne 100%. Bon. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de vouloir trouver la cohérence. Et en effet, je crois que la raison, c'est un texte de Vatican I très important, va nous permettre de voir que les mystères que nous enseigne le catéchisme, qu'on nous prêche dans les retraites, dans les homélies, eh bien, ressemblent aux choses de la nature. Ce n'est pas des ovnis qui n'ont rien, aucun rapport avec notre vie quotidienne. Et par l'analogie, par la comparaison avec les choses du monde qui nous entoure, nous voyons que les mystères, eh bien, sont quelque chose que nous avons dans notre intelligence, comme Jésus prenant des paraboles pour nous faire penser au royaume, ce sont des très belles métaphores. Mais en théologie, on va plus loin, on va même faire ce qu'on appelle l'analogie, c'était là vraiment une comparaison fondée dans la nature même des choses. Dieu a fait l'univers naturel et l'univers mystérieux de la Trinité et de l'incarnation, l'univers surnaturel, et bien ils se ressemblent forcément parce qu'ils ont été faits par Dieu. Donc en connaissant l'univers naturel, je peux décoder l'univers surnaturel. Et c'est fantastique. En fait, toute la théologie, c'est ça, c'est d'aller lire le mystère intime de Dieu, la Trinité, l'incarnation, en s'appuyant sur ce que nous savons déjà, des réalités naturelles que Dieu a créées. Et puis en voyant que les mystères sont bien cohérents entre eux, qu'il y a un rapport entre la Trinité, l'incarnation, la vision béatifique, c'est extrêmement intéressant de se rendre compte que ces choses qu'on nous enseigne, si on les voit trop isolées, c'est pour ça que moi j'incite les prêtres, parce que je vois qu'il y en a un certain nombre, ou les séminaristes dans mon auditoire, à travailler sérieusement dans leur communication, soit de conférence, soit d'instruction, soit de catéchèse, soit d'homélie, l'idée qu'il faut montrer, si vous voulez, les raisons des choses. Pas simplement les rappeler, parce que ça, bon, il y a l'évangile, c'est dedans, donc il faut le citer rapidement, mais il faut surtout montrer, essayer de trouver de nouveaux aspects, de nouvelles façons pour appliquer aux gens qui sont devant nous le pourquoi des choses. Parce que sinon, saint Thomas nous dit, les gens s'en vont vides. Par contre, si on leur a montré, tiens, bah oui, pourquoi ça convenait que ce soit le Fils qui s'incarne, pourquoi la béatitude céleste de voir Dieu, ça nous va très bien, nous qui sommes des créatures spirituelles, pourquoi, etc. Il y a un rapport entre tel et tel aspect de tel mystère, c'est extrêmement enrichissant. Et il y a beaucoup de choses à trouver, il y a des pères de l'Église, il y a de bons approfondissements dans les docteurs qui nous permettent de nous dire, mais oui, notre foi est vraiment quelque chose qui se tient. C'est que les différentes parties, vous voyez, je vous citais la somme de théologie, moi ça m'a toujours énormément frappé, c'est un ensemble d'une cohérence éblouissante, oui. Avec la grande descente de la création, et puis la remontée de l'homme rationnel dans la deuxième partie de la somme vers Dieu par la vision béatifique et la vie morale, et puis le pont entre les deux qui est le Christ, c'est une cohérence absolument sublime, et je crois qu'on peut pratiquement faire oraison sur le plan de la somme. C'est quelque chose d'absolument magnifique. Donc il y a une connexion entre les mystères, et puis les liens avec de mystères avec notre fin dernière, c'est-à-dire que, ça je vais en toucher peut-être un mot juste en terminant, le fait, si vous voulez, que ce qui nous est présenté correspond à ce que nous désirons sans le savoir, au plus profond de nous-mêmes, ou ce que nous aurions voulu désirer, enfin les plus grands désirs de bonheur que nous avons eus, ils sont exaucés dans le message de la foi. Et ça, la raison peut le montrer, et de façon très, très forte. Donc vous voyez, la raison établit c'est ce chemin vers la foi, les préambules de la foi. Elle montre la connexion interne, la cohérence, la tenue, si vous voulez, du corps doctrinal catholique. C'est quand même quelque chose de magnifique. Si vous ouvrez le Coran, hein, ou les Upanishads, Vedas, ou les livres sacrés de l'hindouisme qui sont interminables, il y en a des dizaines, des centaines. Pour se retrouver là-dedans, c'est pratiquement impossible. Même par exemple pour le Coran, il faut lire le Coran avec. Enfin, il y a une conférence là-dessus avec les excès. Toute une tradition d'interprétation qui d'ailleurs n'est pas non plus tout à fait cohérente, mais le christianisme, vous voyez, avec tout son corps interprétatif, c'est vraiment une anthologie, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement séduisant pour la raison, et plus que séduisant, c'est dense, quoi. Et alors ensuite, la raison défend, vous voyez, la révélation contre l'erreur. On en a eu des exemples intéressants avec le Da Vinci Code, par exemple, entre autres, où il y a eu un peu de levée de bouclier de différents médias catholiques, qui ont juste titre, en France, en Italie, aux États-Unis, puis même des livres comme celui du Père Vernin, qui je crois est assez bon, et puis d'autres, pour réfuter, enfin, le nombre incroyable de sottises et d'erreurs historiques, théologiques et philosophiques contenues dans ce genre de production. Et la raison, n'est-ce pas, peut montrer que toute objection, tout ce qui se prétend objection contre la foi, est soluble. Ça peut être réfuté. Tout. Dans le domaine de. Enfin, on peut montrer la non-cohérence ou l'absence de portée des objections qui sont faites contre la révélation. On ne peut évidemment pas démontrer les mystères de la révélation, la Trinité, l'incarnation. Mais on peut montrer que les objections qui sont faites contre se démolissent elles-mêmes ne tiennent pas compte de certains éléments et donc ne portent pas. Ce qui est extrêmement important, parce que sinon notre foi serait déraisonnable. S'il y avait une contradiction, vous voyez, il y a la fameuse phrase de Dostoïevski, hein, qui dit, alors je sais qu'une fois je choque les gens en rappelant ça, mais je vais quand même, j'espère que je vais vous choquer, ou peut-être même pas, parce que déjà vous dormez, non? Vous n'avez pas trop chaud, ça? Bon. Donc, Dostoïevski disait, si je découvrais qu'il y avait une contradiction entre le Christ et la vérité, je choisirais le Christ. Eh bien, zéro pour la question. Simone Veil a dit le contraire, mais je crois que Simone Veil a raison. J'espère que je vous choque vachement. Et en effet, parce que si le Christ n'est pas... Si le Christ n'est pas, c'est d'ailleurs même la supposition qui est invraisemblable. Mais je crois qu'il faut la prendre dans l'hyperbole orientale de Dostoïevski, qui était un orthodoxe tout à fait radical, enfin, mais profond quand même. Et donc, c'est une façon de s'exprimer son amour du Christ. Mais dans le domaine rationnel, ça ne tient pas. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre une vérité certaine de la foi et une vérité certaine de la raison. Pas des hypothèses plus ou moins bien établies dans le domaine de la science ou de la pseudo-science, mais quelque chose qui est certainement établi par la raison ne peut pas contredire quelque chose qui est certainement établi par la foi, parce que la source de l'un et de l'autre, c'est Dieu. Donc, saint Thomas lui-même dit que quelqu'un qui adhère au mystère, quelqu'un, on ne peut pas adhérer au mystère du Christ si on ne voit dans notre raison qu'il y a des raisons positives d'y adhérer, et on pécherait mortellement si on adhérait à la révélation du Christ en ayant en soi, si vous voulez, des arguments, un état de conscience qui nous montrerait que c'est contre la raison naturelle. Saint Thomas le dit explicitement. Ce que Dostoïevski loue, c'est pour Saint Thomas le considère comme un péché. Et je crois que la vérité est du côté de Saint Thomas. Parce qu'il y a une cohérence entre la révélation et la raison. Donc la raison a ce travail de défense, si vous voulez, de controverse, et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'exercer, parce que ça met de l'ambiance, c'est quand on se défend plus qu'on s'embête, quoi. Vous ne trouvez pas? Moi je trouve que c'est sympa la controverse, enfin, il ne faut pas s'insulter, puis on n'est pas obligé de couvrir les jambes de nom d'oiseau, mais il n'empêche que pour l'erreur, il faut aussi un peu se passionner, quoi. Parce que les gens aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut envoyer toutes les tomates pourries aux cathos, ben, il y en a beaucoup qui, je ne sais pas, bon, évidemment, certains, une vocation franciscaine, ils sont contents de voir des tomates. Bon, c'est sympa. C'est un aspect des choses, mais on vous expliquera, c'est un aspect particulier. Mais normalement, l'Église, surtout les évêques et les papes, ben, ils font pas ça, ils se défendent. Regardez ce qu'ont fait des hauts prélats récemment. Ils ont parlé très clairement contre le fait que c'était inacceptable, même au point de vue humain, que l'Église soit traitée de cette façon-là. Et donc, c'est logique, on se défend. Et d'ailleurs, c'est très important pour sauver les âmes. Moi, je connais un tout petit peu les musulmans, un tout petit peu. Hein. Et bien, je peux vous dire que la force, la baraka, pour eux, c'est l'élément apologétique fondamental. Si vous avez la force, en particulier la force spirituelle d'être en habit dans le métro ou dans n'importe où, c'est un signe que vous avez Dieu avec vous. Bon, combien de fois je suis félicité dans des transports en commun par des musulmans qui vont justement me brasser sur l'épaule devant tout le monde parce que je suis un marabout, j'ai la baraka, point. Et bien, je suis en habit. Hey, Dieu, il est où Dieu chez vous là? Hey, tu le mets où Dieu? Eh bien, c'est bien que tu mets Dieu dans le métro, c'est bon. Ben, ça va, moi, là aussi, on est d'accord, peut-être qu'il va me couper la tête après, mais bon, pour moi, on est chacun dans notre rôle, quoi. Et je trouve que c'est plus sympa. Mais il faut que l'Église se défende. Et les musulmans admiraient Saint-Louis, ils admiraient Foucault, ils admiraient Saunis qui les combattait. Bon, parce que c'était des gens, ils étaient Saunis, lui, général de Saunis. Lui, il prie Dieu, les autres, ce sont des chiens qui ne prient pas. C'est quelque chose de magnifique. Il faut avoir la charité vis-à-vis des musulmans de, si vous voulez, de combattre leurs erreurs, quoi. Et de ne pas avoir peur, mais évidemment, on risque sa peau, mais enfin, c'est le boulot, quoi. Enfin, on en parlera après, quoi. Mais disons, ça met au bien. Sinon, tout devient mou, on se sent kikine. Vous voyez, je suis enregistré, donc je suis obligé de mesurer un peu ce que je dis. Qu'après, on me dénonce, et bon, comme quoi, je dirais des gros mots. Mais c'est un peu vrai, vous allez voir, mais pas trop quand même. Bon, donc la raison prépare le chemin, montre la cohérence, et défend la foi contre toutes les erreurs pseudo-raisonnables qu'on a même contre elle. En particulier, toutes les fausses. Les faussetés pseudo-scientifiques, les fausses théories de l'évolution, ou les fausses présentations de vérités, qui sont par ailleurs des vérités scientifiques, mais souvent vulgarisées de façon complètement débile, qu'on enseigne aux enfants et qu'on vous a sans doute enseigné malheureusement, et bien là, la raison peut très bien défendre la foi contre le pseudo-attaque porté par ces pseudo-sciences. Parce que c'est toujours des pseudo-sciences. Hein. Moi, je suis très frappé du mot un peu de science écarte de Dieu, beaucoup de science en reproche. Il y a certains grands savants qui sont agnostiques, mais très souvent, ils sont en même temps respectueux de la foi. Je connais bien les milieux scientifiques, la recherche en particulier, on y était très agressifs, mais il y a aussi pas mal qui sont bien respectueux parce que, bon, il y a une noblesse. Quand ils ne sont pas bouddhistes, ils respectent les catholiques, quoi. Et même certains bouddhistes, on respecte aussi. Parce que le bouddhisme se diffuse pas mal dans les milieux scientifiques parce que ça permet d'avoir du spi. Puis c'est un peu. Parce que le bouddhisme par un occidental, moi je connais aussi un peu le bouddhisme, ça m'a toujours fait un peu rigoler. C'est pas ce qu'on, vraiment ce que eux estiment.
Oui, c'est très compliqué. Les occidentaux, vous comprenez pas, c'est beaucoup plus subtil.
Tant mieux, parce que comme ça, si on comprenait, c'est que oui égale non et que Dieu égale le néant. Bon. Parce que le bouddhisme, en fait, c'est une sorte d'athéisme. Enfin, c'est ce que, du moins, l'abbé Lucien un jour voyageait dans le TGV, dans le marché moderne, d'être dit, le TGV. Et alors, il était à côté d'un bonze, en plus un bonze en uniforme. Et alors, il discutait, il était assez fort en philo, l'abbé Lucien. Et alors, le bonze lui expliquait que lui, il était athée, quoi. Le bouddhisme était un athéisme. Je crois que c'est plus près de la réalité, pas au bouddhisme, je ne parle pas d'un luth. Présenter ça comme un athéisme qu'autre chose. Alors, ça, c'est, vous voyez, le travail de la raison par rapport à la foi. Et ensuite, il y a un retour. La foi purifie la raison. Elle ennoblit. Et c'est magnifique. C'est quelque chose de très très consolant. Vous voyez, celui qui a reçu la foi, donc la raison l'a aidé à aller vers la foi, a des degrés très divers. Hein. Certains convertissent dans une église comme ça sans raison apparente, apparemment. Et il faut après qu'ils cherchent les raisons. Il faut que vous ayez la formation intellectuelle correspondant à votre état civil et à votre profession civile. Sinon, vous perdrez la foi, je vous le garantis. Donc il faut vous former. Et il faudra former ceux qui auront des enfants, il faudra les former. Sinon, vous formez de futurs apostats. Donc, même si vous avez reçu la foi comme ça, sans, dans des circonstances très, très heureuses, si vous voulez, mais qui ne semblaient pas directement en rapport avec la raison doit venir ensuite appuyer, parce que sinon, ça se cassera la figure. Ou du moins, vous ne pourrez pas transmettre. Et vous serez des onagres, enfin, ou des types stériles, quoi. Vous ne transmettrez rien. Vous serez des bons cathos qui ne se posent pas de questions, bon, c'est peut-être très gentil, qui ont la foi du breton, pour un sens un peu péjoratif du terme. Je sais qu'une fois j'étais en Bavière, et puis un prêtre qui me dit « Ah, vous êtes breton ?»« Alors, dit-il, vous n'avez aucun doute sur la foi. »« Sie haben keine Glaubenszweifel. » Je dis « Bah oui, j'en avais eu autrefois. » Mais je veux dire, bon, c'est sympa, mais il faut aussi parler et communiquer. Quoi. Donc vive les bretons, hein, j'en suis, donc vive les bretons. Mais cependant, il faut aussi parler, surtout aujourd'hui, si on n'attaque pas, on va reculer. Hein. Alors la foi, vous voyez, purifie notre raison. Parce qu'elle va, en particulier, c'est ce qu'on constate dans l'histoire de la pensée, délivrer la raison de l'erreur. Parce que ce que je vous ai dit sur le fait que la raison arrivait à montrer l'existence de Dieu, et un certain nombre d'autres choses, des attributs divins, comme le fait que Dieu s'occupait de sa création, qu'il s'occupait des êtres spirituels, qu'il était raisonnable de le prier, tout ça, la raison peut théoriquement arriver à démontrer. En fait, ceux qui l'ont montré, c'était des gens qui étaient théistes, c'est-à-dire des chrétiens, des musulmans, des juifs, essentiellement eux. Déjà, les Grecs avaient préparé Platon, Aristote et quelques autres, mais essentiellement ceux qui l'ont montré jusqu'au bout, c'était des gens qui savaient par leur révélation que Dieu était une personne distincte du monde, qui s'occupait du monde et qu'il était donc raisonnable de la prier. Ceux qui se disent les adorateurs de Dieu, dit saint Thomas dans une de ses œuvres, c'est à eux que je m'adresse parce que eux, en effet, comme ils savent que Dieu est provident, ils le prient. Donc, en fait, ce que la raison peut faire, elle le fait difficilement. Et même Aristote et Platon ont commis des erreurs absolument importantes sur certains points, ils sont de très très grands esprits, mais ils ont eu des erreurs. Parce que la raison est blessée par le péché originel. Donc la foi va venir délivrer la raison de l'erreur, en particulier en révélant pour tout le monde ce qui n'était que l'apanage de quelques philosophes consacrant toute leur vie à la recherche, arrivant à des résultats mélangés d'erreurs et avec en plus certains doutes. Et bien saint Thomas nous dit, reprenant les aspects relevés déjà par un rabbi important, donc il a beaucoup utilisé Maïmonide, reprenant donc ce que disait Rabbi Moïsès, que si Dieu a révélé dans l'Ancien Testament non seulement son existence mais la loi morale, c'est qu'afin que tous les hommes puissent le trouver avec certitude, facilement et sans mélange d'erreurs. Et c'est capital parce que notre connaissance de Dieu conditionne notre salut. Donc même si la raison pouvait arriver à prouver l'existence de Dieu, etc., etc., il fallait que pour tous les hommes qui sont occupés à autre chose, à faire les courses, à surveiller les lits sur le feu, à soigner les enfants, etc., bon, à faire les comptes de leurs impôts, donc il y a plein de choses, la vie est relativement peu contemplative, hein, surtout dans le monde moderne. Donc s'il n'y avait que les contemplatifs qui, au bout de 30 ans, arrivaient à une certaine connaissance naturelle de Dieu, qui seraient sauvés. Donc on a révélé, non seulement évidemment que Dieu existait, puisqu'il a parlé, donc c'est une révélation implicite de son existence, et puis il a dit lui-même, hein, « Je suis celui qui suis ». Et puis, quelle était la trajectoire à suivre pour le rejoindre, qui sont les commandements. Donc, vous voyez, c'est très important, dans le décalogue, nous avons, par la révélation, la certitude de l'existence de Dieu, de sa providence, de l'immortalité de l'âme humaine, et la connaissance de la morale. Et saint Thomas a dit, en s'émouvant sur le sort des anciens sages, il a dit, bah, écoutez, ces gens qui étaient des génies, ces génies sublimes, parce qu'il les aimait beaucoup, ont souffert d'immenses souffrances, angoisses, parce qu'ils savaient que le bonheur de l'homme, c'est de contempler Dieu, mais ils ne savaient pas si on pouvait y arriver, parce qu'ils ne savaient pas si leur âme était vraiment immortelle, et donc ils étaient pris d'une angoisse terrible, se rendant compte que le but même pour lequel l'homme était fait, qui était de connaître Dieu, ben, il n'y allait peut-être pas y arriver. Même Platon disait, c'est un risque à courir, etc. Aristote a une position bon, qui semble quand même être pour l'immortalité de l'âme, mais bon, avec quand même des difficultés profondes. Et bien la révélation nous dit, nous sommes délivrés de ces angoisses, nous dit saint Thomas, si, selon les documents de la foi, nous tenons, comme il faut tenir, que notre âme est immortelle et qu'elle est appelée à voir Dieu. Donc c'est magnifique, vous voyez. Parce que ce que les plus grands sages, vous voyez, c'est aussi une chose apologétique très importante. Quand on fait de l'apologie, je crois qu'il faut se battre contre les erreurs avec fougue, et en fonction de nos moyens, il ne faut pas taper trop si on n'est pas trop formé, hein, parce que c'est nous qui allons nous retrouver KO. Mais en même temps, vous voyez, il faut aussi pas faire l'apologétique du mépris, c'est-à-dire qu'il faut dire aux gens, écoutez, vous êtes dans telle position, bon, vous êtes dans le bouddhisme ou dans l'islam et tout, qu'est-ce qui vous motive vraiment? Et on s'aperçoit que souvent, c'est des vérités captives dans l'erreur. Et leur montrer que ces vérités, ben, elles sont totalement exaucées dans le corpus chrétien et dans la révélation chrétienne. Que tout ce qu'il y a de vrai, que la raison des sages et même la raison mélangée dans les fausses religions a trouvé, se retrouve exaucée dans la révélation chrétienne. Et non seulement il y a cette purgation, si vous voulez, de l'erreur, mais il y a également le fait qu'il y a de nouveaux objets qui nous sont donnés, de nouvelles pistes qui sont ouvertes à la raison et qui ont permis, au fond, je dirais, la fondation du monde moderne dans ce qu'il a de juste, dans ce qu'il a de bon. Parce que c'est le christianisme qui a introduit toute la problématique de la personne, de sa dignité, de sa liberté, en particulier la dignité de la femme, la création, la valeur positive de la création, qui est soulignée aussi par, évidemment par le judaïsme et par l'islam, mais très fortement par le christianisme, la valeur positive de la création, qui a permis l'essor des sciences modernes, parce que les animistes ou les bouddhistes ne s'intéressent pas beaucoup à l'aménagement du monde, hein, vu qu'il est divin ou qu'il est une illusion. Bon, donc c'est le christianisme, c'est le créationnisme qui a permis ça. Donc vous voyez, en fait, la révélation, c'est pour ça que le bagage fondamental de l'Europe, c'est vraiment la révélation faite dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, en plus de la sagesse hellène et du juridisme latin. Et si on enlève n'importe lequel de ces trois éléments, il n'y a plus d'Europe. Hein. C'est absolument fini. Donc c'est un impact, je crois, extrêmement fort, parce que ces grandes vérités métaphysiques sur la nature de la personne, sur lesquelles les chrétiens ont beaucoup réfléchi à cause du Christ et de la Trinité, ont eu une conséquence extraordinaire sur le statut social, politique, de l'esclave, du serviteur, de la femme, etc. Ça a bouleversé complètement, en l'espace de 2000 ans, la géographie sociale et politique de l'humanité en Occident, et puis après dans le monde entier, par l'intermédiaire de l'Occident. Et ça, c'est le fruit de la foi. Actuellement, le monde moderne combat l'Église avec des dons qu'il a reçus de l'Église, la notion de dignité de la personne. L'égalité substantielle de la femme et de l'homme, ça vous paraît peut-être évident, mais ça n'était pas pour Aristote, qui pensait que l'homme et la femme ne pouvaient pas lier une amitié, parce que la différence entre eux était trop grande. Hein, il est méchant, Aristote. Et bien nous savons que si, une amitié est possible, nanana, etc. Parce que nous sommes chrétiens. Et la foi a libéré notre raison pour montrer que oui, la femme a la nature humaine, et donc une dignité, bien qu'il y ait une mission différente, une dignité égale à celle de l'homme, etc. Donc vous voyez, ces pistes qui ont été ouvertes, et c'est quand même extrêmement fort. Et puis, le dernier point, donc, puisqu'on est obligé d'aller très vite, non seulement il y a cette délivrance des erreurs, non seulement il y a de nouvelles pistes ouvertes sur des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées. Vous voyez, j'ai eu le privilège de connaître le professeur Marcel de Cordes, qui était peut-être un des plus grands penseurs aristotéliciens et thomistes du XXe siècle. Et il disait, lui, avec ses études, il lisait Aristote dans le texte. Comme vous lisez Bibi Fricotin, ou bien, je ne sais pas, ou le petit bonhomme là, affreux, là, qui, ou le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas quoi, ou le petit qui fait de la sorcellerie, là. Oui, Harry Potter. Ben, lui, c'est Aristote pour se détendre qu'il disait. Et ben, c'était un type formidable, le professeur de Corté. Il nous disait, je me souviens justement, je le visitais avec l'abbé Lucien, c'est il y a maintenant 25 ans. Il nous disait qu'au fond, la personne n'affleure pas dans la philosophie grecque. Et pourtant, la personne, aujourd'hui, on en parle suffisamment. Ben, c'est grâce à la révélation qu'elle a acquis toute ça, à cause du Christ, à cause de la Trinité. Et moi, j'étais extrêmement ému quand j'ai entendu le Corté nous dire ça. Donc, vous voyez, il fait ça, ça nous délivre, ça nous ouvre de nouvelles pistes. Et puis, ça fait que. Dans l'ordre surnaturel, nous allons trouver l'accomplissement des désirs de la raison. Il y a un très beau passage dans saint Thomas, donc messieurs les ecclésiastiques, relisez le livre 3 au chapitre 23 et suivant, jusqu'au chapitre 50, donc vous avez une bonne traduction, si votre latin est un peu rouillé, et c'est très très beau, saint Thomas dit, mais où est le bonheur de l'homme? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Il envisage tout, il dit oui, mais il n'est pas là totalement. Et cependant, on cherche le bonheur dans la jouissance, dans la vertu, dans l'art, dans la domination politique, dans que sais-je. Et il dit, bien, dans la vision béatifique, là où se trouve le vrai bonheur de l'homme, il montre qu'en effet, l'homme ne sera heureux que quand il verra la clé de tous les problèmes qu'il y a, eh bien, nous aurons, dans la vision béatifique, l'exaucement, d'une façon éminente, du désir naturel de connaître, du désir d'exister toujours, parce qu'on existera avec une pleine certitude, sans crainte de la mort, du désir de disposer du monde, on se baladera comme on voudra dans le cosmos renouvelé, du désir de vivre selon la vertu, on sera tous parfaitement vertueux, on n'a plus besoin de se confesser, du désir de voir ses mérites reconnus, ce qui est normal, la louange normale de l'homme, du désir de jouir, vous voyez, le christianisme n'est pas l'ennemi du plaisir, Chrysostome le disait à la cour de Constantinople, hein. Nous aimons le plaisir plus que vous, païens, mais le plaisir dans l'ordre. Et du désir de vivre en compagnie d'autres êtres humains, puisque la vision béatifique, c'est aussi la compagnie des autres élus. Donc c'est quelque chose de fantastique, et je crois que la théologie de Thomis, qui insiste énormément sur l'importance de la vision béatifique, et sur le fait qu'elle assume tout ce qu'il y a de bon dans l'homme, tout ce que l'homme désirerait, tout ce qu'il voudrait, et qu'elle l'assume en le dépassant de beaucoup, c'est motivant. Parce que dans cette chaîne de vie où on va finir tous par mourir, quel est le but de la manip, quoi ? C'est quand même motivant de dire aux gens, moi j'y pense souvent quand je suis dans le métro, je me dis, mais pourquoi, dans cette rame, surtout dans la ligne 1, où vous avez toute la rame d'un seul coup, là, combien il y a de types qui ont la foi, combien il y a de types, et les autres types, est-ce qu'ils croient qu'ils sont des chiens, quoi ? Et ça vous fait pas pleurer, vous ? Vous pouvez dormir tranquille la nuit ? Attends, dormez quand même. Bon. Mais je veux dire, quand même, on va pleurer comme ça, Dominique. On n'est pas des chiens. Bah, et si on peut attirer les gens à vivre éternellement du côté du ciel plutôt que du côté de l'enfer, parce qu'il y a, pour un être adulte, il n'y a pas d'autre solution. C'est quand même motivant. Et je crois que la théologie thomiste donne, vous voyez, des raisons très, extrêmement motivantes de dire, bah, au ciel, vous voyez, on retrouvera tout ce qu'on a fait ici-bas. Même les meilleurs moments du RJC, nous dit, je paraphrase Jacques Maritain, les meilleurs moments des choses naturelles qu'on aura fait le mieux possible, ils subsisteront dans la mémoire des anges, nous dit Jacques Maritain. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour survoler ce sujet, et je pense peut-être que Grégoire veut vous dire quelque chose de mieux. Merci de votre attention.